Nous ouvrons notre Bible dans le livre de l'Exode au chapitre 32. Nous lirons dans quelques instants le verset 4. Nous nous souvenons que les enfants d'Israël ont réclamé des dieux qui iraient devant eux. Aaron leur a alors demandé d'ôter les boucles d'or qui étaient à leurs oreilles, ce qu'ils firent immédiatement, sans hésitation ni discussion. Et voici alors ce que la parole de Dieu nous rapporte au verset 4. « Et il, Aaron, prit l'or de leurs mains, et il le façonna au burin, un torillon de métal fondu. » C'est la traduction littérale du texte hébreu. Certaines versions traduisent « Il jeta l'or dans un moule ». Je voudrais vous montrer en premier lieu comme le domaine artistique a été au service de l'idolâtrie et de l'apostasie. Lorsque, plus tard, Aaron doit rendre des comptes à Moïse et lui expliquer comment le peuple a pu en arriver à un tel degré de corruption, il dit « Ils m'ont dit, fais pour nous des dieux qui iront devant nous, car ce Moïse, l'homme qui nous a fait monter hors du pays d'Égypte, nous ne connaissons pas ce qui lui est arrivé. Je leur ai donc dit, qui a de l'or ? Ils se sont enlevé l'or et ils me l'ont donné. Je l'ai jeté dans le feu et il est sorti, ce torillon. » Extraordinaire, vous ne trouvez pas ? Aaron jette l'or au feu et hop, il en sort un veau. Ce rapport fait à Moïse est quelque peu simpliste et nous pourrions en rire si la situation du peuple n'était pas aussi horrible aux yeux de Dieu. L'or n'est quand même pas sorti du feu en forme de veau, comme si personne n'était intervenu dans cette affaire. Non, la réalité, et elle apparaît clairement dans le verset 4 que nous venons de lire, et qu'il y a eu un moule, comme le traduisent la version seconde et d'autres versions. Le texte original hébreu est plus précis encore. Vous l'avez entendu. Aaron a pris l'or de la main des Israélites et il l'a façonné, il l'a travaillé au burin pour en faire un torillon de métal fondu. Une parenthèse, l'art de travailler l'or est très ancien. Dès les temps les plus reculés, il y avait dans la péninsule du Sinaï des mines et des fonderies exploitées par les Égyptiens. On suppose que le veau était en bois et qu'ensuite il a été recouvert d'or battu. En effet, les grandes statues des dieux chez les anciens étaient en bois, recouvert de plaques d'or. Si, effectivement, il y a bien eu un moule, comme le traduisent certaines versions, ce moule ne s'est pas fait tout seul. Est-ce Aaron seul qui l'a fabriqué ? Est-il été aidé de quelques ouvriers ? Probablement, mais la Bible est silencieuse à ce sujet. Si cette idole était en bois, recouverte d'or, est-ce Aaron qui a sculpté le bois et a ensuite façonné l'or au burin ? Des bonnes volontés pleines d'un zèle spontané lui sont-elles venues en aide ? Des hommes habiles doué de talent dans le domaine de la sculpture ? Là encore, l'Écriture ne précise rien sur ce point. Mais un veau a bien été façonné et recouvert d'or. Ce qui est certain, dans toute cette terrible affaire, c'est que des capacités, des talents artistiques au sein du peuple ont servi à copier les nations païennes, le monde religieux idolâtre, et a sombré dans l'apostasie et la corruption. Il serait bon que, dans les églises, les personnes, leurs talents et leurs instruments et ustensiles soient purifiés et sanctifiés par l'Esprit de Dieu, afin de ne pas façonner le veau moderne d'une apostasie relouquée au goût du jour. Qu'il ne nous présente pas une pâle imitation d'un monde qui sait faire mieux en la matière, mais qu'il pratique les œuvres à la gloire de Christ. Nous avons une illustration de la pensée de Dieu à ce sujet lors de l'édification du tabernacle. Nous lisons dans l'Exode au chapitre 40, les versets 9 et ensuite les versets 12 à 15, « L'Éternel parla à Moïse et dit, « Tu prendras l'huile d'onction et tu en oindras le tabernacle et tout ce qu'il renferme, et tu le sanctifieras avec tous ses ustensiles. Tu feras avancer à Aaron, tu l'oindras et tu le sanctifieras pour qu'il soit à mon service dans le sacerdoce. Tu feras approcher ses fils et tu les oindras comme tu auras oint leur père pour qu'il soit à mon service dans le sacerdoce. » Vous remarquez donc que tout, personne et ustensile, devait être au bénéfice de l'onction. Qu'est-ce que cela implique pour nous aujourd'hui dans la nouvelle alliance? Une puissante effusion de l'Esprit sur tout le peuple de Dieu. Un prédicateur, oint de l'Esprit de Dieu, ne parle pas comme les orateurs de ce monde. Un chanteur, revêtu de l'onction de l'Esprit, ne chante pas comme les stars adulées par les foules. Les musiciens, remplis du Saint-Esprit, ne s'excitent pas sur leurs instruments, à l'instar des idoles déchaînant des salles de spectacle pleines à craquer. Non. Lorsque l'onction repose sur une personne, cette onction transparaît dans la prédication, dans le témoignage, dans le chant ou dans la musique. Et les résultats, les fruits portés, sont de même nature que l'onction. C'est la loi de l'espèce. L'onction apporte un attouchement céleste et divin sur les personnes et sur leur service. Ces personnes sont et agissent d'après le modèle des choses d'en haut. Le Saint-Esprit les y pousse dans une sainte, une douce et une puissante contrainte. Et ceux et celles qui sont au contact de ces chrétiens remplis du Saint-Esprit en reçoivent tout le bénéfice divin. Les personnes et leurs talents artistiques, quand il y en a, ne suffisent pas dans l'œuvre de Dieu. C'est l'Esprit qui vivifie, nous dit Jésus. Dans l'Église de Jésus-Christ, dans l'œuvre de Dieu, nous ne pourrons jamais nous passer de la personne, de la puissance, de l'onction, des dons et des qualifications du Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, ne l'oublions jamais. Malheureusement aujourd'hui, beaucoup de soi-disant chrétiens ne comprennent plus ce langage. Derrière les mêmes mots, on ne met plus les mêmes réalités. À l'époque de Néhémie, des Juifs avaient pris des femmes asdodiennes, ammonites, moabites, et la moitié de leurs fils parlait l'asdodien et ne savait plus parler le juif, la langue du peuple de Dieu. Ils ne connaissaient que la langue de tel ou tel peuple, Vous trouverez cela dans le livre de Néhémie au chapitre 13, les versets 23 et 24. Il en est malheureusement ainsi aujourd'hui dans de nombreuses églises. À force de compromis, de mélange, d'alliance consciente et volontaire avec le monde, avec son esprit, avec son langage, la nouvelle génération de chrétiens ne parle plus la véritable langue du peuple de Dieu. Elle ne la connaît même pas. Avez-vous remarqué dans le texte que je vous ai lu il y a quelques instants que les fils d'Aaron devaient être oints comme l'avait été leur père? Il n'y avait pas une onction pour l'ancienne génération représentée par Aaron et une onction différente pour la nouvelle génération montante, les fils d'Aaron. Aaron et ses fils ont été oints de la même façon, avec la même huile, par la même personne. J'entends aujourd'hui des choses étranges. On parle de l'ancienne Pentecôte, avec mépris d'ailleurs, et de la nouvelle Pentecôte. Mais où trouvons-nous cela dans l'Écriture? L'effusion puissante de l'Esprit annoncée de la part de l'Éternel par le prophète Joël englobe les diverses générations et même les diverses classes sociales. Écoutez plutôt. « Je répandrai mon esprit sur toute chair, dit l'Éternel. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions, même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. » Joël chapitre 2, les versets 28 et 29. Si je comprends bien ma Bible, Dieu s'adresse à tous, sans distinction d'âge, de sexe, de niveau social, aux adultes, la génération présente, à la génération qui précède mais qui est toujours là, les vieillards, et à la génération qui monte, les fils et les filles. Dieu fait également allusion aux serviteurs et aux servantes. Et vous savez que l'apôtre Pierre a cité ces paroles de Joël dans son discours le jour de la Pentecôte à Jérusalem. Il a aussi précisé à ceux qui étaient sur le seuil de la repentance, « Vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Actes des Apôtres, chapitre 2, les versets 38 et 39. Aucune distinction de race, ni de situation géographique. Le pentecôtisme biblique est indispensable, irremplaçable, immuable et universel. Le pentecôtisme du 21e siècle doit être celui du 1er siècle. Mes frères et sœurs, ayons soif de cette vie puissante pour nous, pour nos aînés et pour nos jeunes. Venons à Jésus et buvons. Que ces fleuves d'eau vive coulent en nous et au travers de nous. C'est le grand besoin de l'Église aujourd'hui, toute génération confondue. Revenons au peuple d'Israël et à son veau. Je suppose que la sculpture en bois de ce veau, de ce taurillon, et ensuite son recouvrement d'or, façonné au burin, a pris du temps. Un temps pendant lequel la conscience d'Aaron aurait pu être remuée pour mettre un terme à cette misérable entreprise et ne pas céder une seconde de plus au désir du peuple. Mais il n'en fut rien. Un temps durant lequel le peuple lui-même aurait pu sonder son cœur pour reconnaître la folie qui s'était emparée de lui. Mais rien de tout cela. J'imagine au contraire avec quelle impatience, avec quelle frénésie Israël attendait le changement, la religion du veau. Pas une seule voix, pas une seule, pas un seul cœur n'a été saisi par un sentiment de repentance. Tous, unanimement, sont allés dans le sens de l'apostasie. S'ils avaient sondé leur cœur, ils auraient certainement entendu au très fond d'eux-mêmes la parole de l'Éternel, parole prononcée longtemps après, en d'autres circonstances, « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Avez-vous remarqué que dans sa miséricorde, sa compassion, sa bonté, sa fidélité, Dieu laisse toujours du temps, espérant que les choses changent et que ceux qui s'égarent reviennent à lui. Il a donné du temps à la Jézabel de l'église de Thyatire. Jésus dit « Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente et elle ne veut pas se repentir. » Apocalypse chapitre 2 verset 21. La patience divine ne servit de rien à cette femme endurcie. Dans la parabole du figuier stérile, planté dans une vigne, Jésus dit que le propriétaire de ce figuier venait y chercher du fruit depuis 3 ans, mais en vain. Il a alors demandé au vigneron de couper cet arbre. Mais le vigneron dit « Laisse-le encore cette année, je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. » Luc chapitre 13, les versets 6 à 9. Vous voyez, Dieu espère, il patiente. Dieu a donné du temps aux habitants de Ninive et cette patience divine leur a été salutaire. La parole de Dieu déclare « Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait « Encore 40 jours et Ninive est détruite. » Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne. Jonas, chapitre 3, les versets 4 et 5. Et nous savons que les Ninivites se sont repentis, qu'ils ont crié à Dieu avec force et qu'ils sont revenus tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains étaient coupables. Et que dit l'Écriture ? Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie, alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Jonas, chapitre 3, verset 10. Le réveil de cette ville a été si glorieux que Jésus y a fait allusion dans son enseignement. Je suis pleinement convaincu qu'un retour à Dieu, un temps de profonde humiliation, de repentance sincère et d'abandon total du péché change la vie d'un homme, change la vie d'une femme, change l'histoire d'une église, d'un mouvement, d'une nation. Les récits bibliques et l'histoire de l'église et des réveils au fil des temps confirment ce que je suis en train de vous dire. Je vous en supplie, au nom de Jésus-Christ, vous qui vous êtes écartés du sentier divin et qui m'écoutez en cet instant, où que vous vous trouviez, quel que soit votre pays, quelle que soit votre église, arrêtez-vous et revenez à Dieu de tout votre cœur. Je sais que certains ne reviendront jamais parce qu'ils ne le veulent pas et qu'ils persévéreront pour leur malheur et pour leur ruine dans la voie de l'apostasie. Mais d'autres se laisseront saisir par l'Esprit de Jésus-Christ. Puissiez-vous être de leur nombre. La Bible dit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » 1 Épître de Pierre, chapitre 3, verset 9. J'en viens maintenant à la réaction d'Aaron quand la statue du veau a été érigée sur son piédestal. Aaron représente à ce moment-là ce que j'appellerais le ministère de la confusion. La confusion, relevons les trois étapes. Premièrement, le constat d'Aaron. Nous lisons le verset 5 du chapitre 32 de l'Exode. Et Aaron vit. Aaron voit, comme le traduit au présent la version d'André Chouraki. Aaron mesure maintenant du regard ce qui se passe. Il est en train d'évaluer les conséquences de sa propre lâcheté, de sa faillite, cédant au désir du peuple. Deuxième étape, l'édification d'un autel. Poursuivons la lecture du verset 5. « Et il bâtit un autel devant lui. » Après avoir façonné le veau d'or, il bâtit un autel, mais sans briser le veau d'or qu'il venait de travailler au burin. Il pouvait encore le faire. Il aurait mieux valu plaire à Dieu que d'entretenir les faveurs d'un peuple apostat. Lorsque l'Éternel a demandé à Gédéon de lui bâtir un autel, il lui a d'abord donné l'ordre de renverser l'autel de Baal appartenant au père de Gédéon. Vous trouverez ce récit dans le livre des Juges, chapitre 6, verset 25 et suivant. Dieu, notre Dieu, n'est pas le Dieu du mélange, ni le Dieu des amalgames. Comment aurait-il pu y avoir l'autel de l'Éternel en présence de l'autel de Baal ? Même au sein du paganisme, l'Éternel a le souci de sa gloire. Lorsque les Philistins se sont saisis de l'Arche de l'Alliance, l'Arche de Dieu, et qu'ils l'ont placée dans la maison de leur dieu Dagon, ce dernier s'est retrouvé le lendemain la face contre terre devant l'Arche. Et le surlendemain, il était étendu la face contre terre, mais cette fois-ci, sa tête et ses deux mains étaient abattues sur le seuil et il ne lui restait que le tronc. Alléluia ! Premier livre de Samuel, chapitre 5, les versets 1 à 4. Dieu et Dagon dans la même maison, mais c'est inconcevable. Nous allons maintenant examiner notre texte de beaucoup plus près. Nous avons lu « Et il » Aaron bâtit un autel devant lui. Devant lui. Lui, ce n'est pas Aaron, mais c'est le veau. Traduction David Martin et Osterwald. Il bâtit un autel devant le veau. Traduction Tob, donc traduction œcuménique de la Bible. Il bâtit un autel en face de la statue. Traduction en français courant et traduction de l'école biblique de Jérusalem. Il bâtit un autel devant la statue. Il n'y a aucun doute possible au niveau de ces traductions. La traduction du semeur dit d'ailleurs « Aaron construisit un autel devant le veau ». Cette religion de la confusion ne semble pas gêner Aaron, bien au contraire, il contribue à son lancement, si j'ose dire. Un Aaron qui est complètement dépassé par les événements. Ne perdons pas de vue le fait que les enfants d'Israël ont été emportés par leur penchant pour un culte plus matériel que spirituel. En Égypte, les Hébreux avaient été impressionnés par ces cérémonies pompeuses au cours desquelles on célébrait un dieu visible. Les divinités du pays ne manquaient pas. Et au moins, on pouvait les voir. Elles n'étaient pas comme ce dieu mystérieux et invisible auquel Moïse s'adressait. L'idolâtrie égyptienne avait donc laissé de profondes traces dans ces âmes encore fragiles du peuple de Dieu. Le même danger guette les églises aujourd'hui. Heureuses les églises qui n'ont pas succombé à la tentation d'une pseudo-spiritualité selon leur propre conception, selon leur goût ou même selon leurs besoins. Le vrai Dieu n'est pas le produit de l'imagination de l'homme ni de ses innovations. Il est tout autre. Et c'est seulement à travers la révélation qu'il nous donne de lui-même que nous devons le rencontrer pour vivre avec lui des relations conformes à sa volonté. De tout temps, nous le savons, les hommes ont eu la tentation de falsifier la vérité et de lui substituer leur propre vérité, particulièrement en matière de religion et de foi. L'apôtre Paul a écrit à l'église de Corinthe « Nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu » que nous parlons en Christ devant Dieu. Second Épître aux Corinthiens, chapitre 2, verset 17. Mes frères et sœurs, nous sommes appelés à vivre par la foi et non selon nos désirs, nos impressions, nos idéaux personnels. Même si nous ne nous prosternons pas devant un veau d'or, la faute d'Israël reste un avertissement sérieux pour nous tous, et nous le sentons fort bien. La troisième étape dans la confusion après le constat d'Aaron et l'édification d'un autel a été la proclamation d'une fête en l'honneur de l'Éternel. Nous lisons en effet la fin du verset 5. « Et Aaron cria et il dit, demain, une fête pour l'Éternel. » Aaron avait commis une première faute en cédant au peuple et en façonnant un veau. Une première concession va en amener une autre. Très vite, il va s'enfoncer dans la voie des ténèbres, même s'il proclame à grands cris une fête en l'honneur de Dieu. Comment pouvons-nous comprendre le message que Aaron est en train d'adresser au peuple? Soit ce veau d'or est perçu comme une représentation de l'Éternel, ce qui en soi est une abomination, et serait alors la perception corrompue d'un peuple en pleine dérive, soit Aaron, l'homme à la faiblesse coupable, voyant la tournure idolâtre que prennent les événements, tente de sauver la situation en orientant les festivités vers l'Éternel. Dans le but de retenir le peuple sous son autorité, il prend alors la direction de la fête qui se prépare. Après avoir cédé aux pressions perverses des Israélites, il bascule dans de graves compromis. Quel que soit l'angle sous lequel on examine ce verset, la conclusion est malheureusement dramatique. Le peuple est conduit dans la confusion la plus totale et Aaron en porte la lourde responsabilité. Dans ces temps de grave crise spirituelle, la sécurité du peuple de Dieu est d'être fondé sur le solide fondement de Dieu qui reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Seconde épître à Timothée, chapitre 2, les versets 19 et 20. Le peuple de Dieu doit faire preuve de beaucoup de discernement. Fuir les ministères qui, pour plaire aux hommes, n'hésitent pas à s'engager dans les festivités du compromis, de la confusion et du désordre, et s'attacher fortement à l'enseignement vrai, pur, non frauduleux, non flatteur, non cupide, d'hommes qui n'ont comme seul souci que la gloire de Dieu et la fidélité à sa parole. Amen.